Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le vendredi 27 février 2026 et vous écoutez le débrief du troisième jour du Festival International des Jeux de Cannes réalisé par Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Peter. Salut Peter.
Salut Elodie, salut à tous.
De Kurtz. Salut Kurtz.
Salut Elodie, salut tout le monde.
De la Drip Team, Caducé.
Salut Elodie, salut tout le monde.
Et Lana.
Coucou.
Qui se partage le micro à bonnette jaune, la casaque jaune pour les deux dames qui m'accompagnent. Il y a aussi Cyrus.
Salut.
Et Beno et Fix.
Hello la team.
Et on finit par Drew. Salut Drew.
Salut Lodi, salut tout le monde.
Le maître de l'ordinateur.
Voilà, qui m'aide aussi à lire le prompteur du conducteur et qui est bien utile. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc troisième jour, nous avons continué les interviews. Donc ce matin, c'était vous, Beno, FX et Kurt qui étiez derrière les micros. Qui avez-vous rencontré?
Alors ce matin, dans le cadre de Envie en jeu, nous avons rencontré Chloé Di Cintio, Claire Cervelle et Michel Van Langerdonkt.
Qui est un ancien jury de l'Asdor d'ailleurs, Michel. Et oui, donc c'était dans le cadre d'Envie en jeu, qui est un réseau justement qui travaille sur les questions du jeu collaboratif, de l'inclusion, de la prévention des violences, de la prévention, enfin de l'inclusion notamment des troubles de l'attention, etc. Donc c'était super intéressant, vraiment une interview où j'ai appris personnellement plein de choses, c'était cool.
Cool, hâte de l'entendre. Et ensuite.
Ensuite, nous avons reçu Agathe Leloup, qui travaille chez Panini. Eh oui, les petites étiquettes à coller, effectivement, qui s'est déjà lancée depuis quelques années dans le jeu de cartes à collectionner, dans le TCG.
Étonnant, étonnant.
Et on a terminé la matinée avec Susan Bossan, qui est présidente du syndicat des Serious Game Designers. Et avec qui on a parlé justement de Serious Game. Alors elle, c'est plutôt dans le cadre de la formation, mais on a parlé un peu de toutes les facettes du Serious Game et des points communs et des différences avec le game design plus classique, plus ludique. Voilà.
Ok. Et cet après-midi, c'était vous, Lana et Drew, qui étiez derrière les micros?
Oui, et on a reçu Maxime Perrin, qui fait les dossiers criminels dans la société Platonia Games.
Ok, donc vous avez enquêté avec lui.
On a enquêté, on a posé beaucoup de questions et les réponses étaient très intéressantes.
Vous étiez nos fins limiers.
J'espère.
Eh bien, on va passer, maintenant qu'on a fait le tour des interviews, on va passer aux impressions de la journée. Déjà, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez vu Bruno aujourd'hui? Qui a vu Bruno?
Oui, moi j'ai vu Bruno. Ouais, oui. Et je tiens à informer tout le monde, j'ai créé un fil là il n'y a pas très longtemps sur Discord qui s'appelle Où est Bruno, qui va nous permettre, donc ce fil est à l'intérieur du canal Fige 2026, il nous permettra donc de suivre Bruno et de s'assurer qu'il est bien là quelque part. Donc j'invite tous nos auditeurs et auditrices à participer activement à ce fil afin de nous dire à tout moment devant quel stand se trouve Bruno. Voilà. Donc merci beaucoup.
Stock.
Et ça va beaucoup m'aider parce que moi je ne l'ai toujours pas vu Bruno.
Oh, faites-le avec discrétion quand même, hein. On veut pas. L'idée c'est que ça reste drôle et qu'on soit pas creepy, quoi. Merci beaucoup. Et sinon, hier soir, il y a quand même eu un petit truc un peu important sous le.
Ah, qu'est-ce qu'il y a eu hier soir?
On a bu l'apéro.
Ah oui, on a bu l'apéro.
Oui, oui. Okay, okay.
On a fait un billet, on a fait du montage. Mais il y a eu aussi. Enfin, on s'est tous réunis pour regarder un truc qui était Drew.
Bah, c'était la cérémonie de l'Asdor. C'est là où on a appris les meilleurs jeux. Non, mais effectivement, c'était la cérémonie et elle était bien différente des années précédentes puisque cette fois-ci, c'était Vincent De Dienne qui s'est collé à la présentation. Et moi, j'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui connaît le monde du jeu pour présenter le monde du jeu. J'ai trouvé ça assez frais, très orienté, plus raccourci, je pense, que les années précédentes. Ou alors, c'est juste l'aspect fraîcheur qui m'a fait cette sensation-là. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié cette cérémonie, cette prestation. Les années précédentes, pour se souvenir, c'était un animateur de Radio France, local, qui venait.
De France Inter, je crois.
France Inter.
Ouais, c'était Morin. Ouais. C'est pas un animateur, c'est un humoriste.
C'est un humoriste,
avec
voilà.
Des guillemets.
Voilà. Avec un humour, voilà, propre à lui. Mais en tout cas, d'avoir quelqu'un dédié au jeu. Alors, on aurait pu croire que c'était un peu bizarre parce que ben, Vincent fait partie du jury, hein, mais non, il a finement joué ça, il a pas abusé. Il a fait quelques blagues, parfois un peu fortes, un peu orientées, voilà. C'est notamment une blague sur un jeu de Matago. Bon, on sait pas trop si c'était en connivence avec l'éditeur, mais bon, voilà. Quand il présentait les pires jeux de l'année, bon, on peut se poser la question. Taper sur Monopoly, c'est facile. Taper sur un éditeur plus dans le monde du jeu de société, voilà. Bon, à voir.
Alors, puis pas n'importe, enfin, quand même un éditeur indépendant. Enfin, c'est un peu facile ça, de taper sur. Enfin, il y avait peut-être moyen de taper sur les plus gros, ou alors de taper sur plein de gens différents. Là, ça faisait vraiment le scud gratuit.
Ah, en même temps, le jeu de la saucisse, ils ont essayé de trouver un truc où tu sentais qu'ils avaient poussé quelque chose un peu loin, quoi.
Mais je pense que tu trouves des casseroles chez tous les éditeurs.
Oh, il y en a.
Surtout que le deuxième jeu sur lequel ils tapent est visiblement un jeu créé par IA. Donc, ils ont volontairement été chercher quelque chose pour pas blesser. Donc là, pourquoi sur le premier, ça va sur Matago? On sait pas trop, mais voilà. J'espère que ça s'est fait en bonne entente avec l'éditeur. Maintenant, si vous le savez, dites-le nous. Moi, je ne sais pas.
Et la prestation musicale était pas trop mal, même plutôt bien.
Tout à fait.
C'est pas tous les ans de cette qualité-là pour la cérémonie des As d'Or, en tout cas pour la partie musique. Et là, c'était particulièrement réussi.
Tout à fait, c'était une musique en intro de la cérémonie basée sur le jeu, sur les nommés de cette année. Alors, ils ont essayé de tout caser, et puis par une petite pirouette, il a casé les derniers qu'il n'arrivait pas à faire rimer. Mais voilà, c'était assez, assez sympathique pour commencer. Et il a profité de cette cérémonie pour dire qu'il quittait le jury. Et pas que lui, il a annoncé que d'autres membres du jury allaient partir, sans annoncer qui, et encore moins annoncer qui les remplacerait. Hein. Ça reste pour l'instant à la discrétion du jury et de l'organisation du festival. Donc il y aura du mouvement sur les années, enfin sur l'année prochaine, à suivre.
Bon, on va quand même vous donner le palmarès. Alors, le palmarès, l'As d'Or enfant, c'était l'Île des Mookies. J'avoue que je suis ravie, c'était mon petit poulain. As d'Or initié, Zénith. As d'Or expert,
c'est pour moi.
C'est pour toi. Vas-y,
c'est moi.
Vas-y.
As d'Or expert, c'est Sivolution de Stefan Feld.
Voilà.
Mais au grand dam de Lana, il n'était pas là pour recevoir son prix.
Ouais, j'ai pas pu aller le féliciter.
Oui, tu devais aller lui faire un bisou sur le crâne, c'est ça?
Ouais,
c'était ça.
Avec ton escabeau, parce qu'il est très très grand.
C'est ça. Donc pas de bisou sur le crâne de Lana, sur la tête de Stefan Feld. Et enfin, l'As d'Or tout public pour Toy Battle. Donc, on voit qu'il y a quand même deux jeux à deux sacrés cette année. Moi, j'avoue que j'aurais pas cru ça.
Deux jeux et demi, parce que Zénith, c'est ou deux ou quatre.
C'est vrai, deux jeux et demi. Pour moi, Zénith, vous l'avez tellement vanté à quatre, configuration que je n'ai pas testée, que pour moi, c'est un jeu à quatre.
Okay.
Mais en effet, c'est vrai que ça fait deux et demi. Tu as tout à fait raison, Kurt. Deux jeux et demi à deux joueurs. Ce qui est quand même, je ne sais pas s'il y avait eu beaucoup de jeux de joueurs primés jusqu'à présent.
Mais non, justement, il y en a très très rarement eu. Je ne sais même pas s'il y en a déjà eu un.
Est-ce qu'il y avait eu Mr. Jack ?
Alors, il y en a très rarement eu ces dernières années, parce que si on remonte à l'origine du festival, il y a eu beaucoup de jeux abstraits, type à Ballon, etc., qui sont fait primer. Mais c'est vrai que ces 10-15 dernières années, il n'y en a quasiment pas eu.
Mais effectivement, ouais, j'allais dire, effectivement, en parlant, j'ai pensé à Ballon. mais effectivement, c'est intéressant parce que ça entérine le fait qu'on. On disait tous que 2025 c'était l'année du jeu à deux, et du coup bah, ça entérine complètement ça.
Et ça confirme aussi ce que nous disait le jury l'année dernière, que en fait c'était pas une question, enfin on posait la question s'il fallait faire d'autres catégories spécifiques pour le jeu à deux, pour le jeu coop, etc. Et le jury nous avait dit bah non, ça a pas trop d'intérêt, parce que s'il y a un vrai jeu à deux qui est au-dessus du lot et qui voilà, qui mérite de gagner l'As d'Or, il y a pas de discrimination des jeux à deux, c'est juste que ils ont dans leur délibération, ils ont jamais trouvé qu'un jeu à deux voilà était au-dessus des autres, mais voilà, cette année c'est la preuve que des jeux à deux peuvent se faire primer aussi s'ils ont la qualité pour se faire primer.
Et peut-être que dans 10-15 ans, on aura des jeux solo qui seront primés, hein, qui sait, puisque j'imagine qu'il y en a pas eu non plus sur l'As d'Or, hein.
Oui, en effet. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une partie de jeu qui se développe et qui est appréciée.
Oui, qui a son public. Hein. C'est des jeux à part entière. Enfin, il y en a très bien réussi. Mais...
Il y a eu Ayla et l'éclat de la montagne, donc, qui avaient été dans les sélections.
Oui. Si, c'était nommé.
Et on voulait aussi saluer la très belle phrase de fin de cette cérémonie. Lana, est-ce que tu veux bien nous la citer ?
Oui, c'était vraiment beau. Ça rassemblait bien. La phrase de fin, c'était... À la fin de la partie, le pion et le roi retournent dans la même boîte.
Et donc c'est un proverbe italien, a priori, d'après ce que nous disait Vincent Dedienne hier soir. Bon, et sinon, on n'est plus vraiment seul, hein. La foule est là.
Ça y est, ouverture au grand public aujourd'hui, en effet.
Chose à dire ?
Ben, qu'on est dans l'espace famille.
Et il n'y a plus de place sur les tables de jeux experts, hein, ma grande déception. Voilà, très très compliqué d'avoir une place.
Oui, la circulation dans les allées se fait clairement plus difficilement. Enfin, voilà, c'est à tous les niveaux, partout, il y a... Voilà. Mais tant mieux, hein, quelque part, ça veut dire que le festival continue à avoir du succès, qu'il y a du monde qui vient, que le monde du jeu est vivant, on va pas se plaindre. Sauf qu'il y a du monde dans les allées.
Mais a priori, la bonne nouvelle, c'est que ça rentrait facilement ce matin. On a pu croiser Psycho, petite dédicace à lui qui est venu nous faire un petit coucou tout à l'heure sur le stand, et qui nous a dit qu'il avait pu rentrer même avant 10h. Bon, ils sont arrivés tôt, hein, ils ont fait la queue dès 9h15, 9h20, il m'a dit, mais ils ont même laissé rentrer un petit peu avant 10h, donc voilà, c'est plutôt cool, et ça permet de fluidifier effectivement l'entrée.
Et puis globalement, il reste quand même... on peut pas forcément choisir son jeu, mais on peut quand même jouer encore aujourd'hui. Ce sera peut-être plus forcément le cas demain, mais on est arrivé quand même à jouer aujourd'hui.
Est-ce que vous savez si les entrées étaient sold out? Parce que Peter me disait qu'il avait vu des messages sur les réseaux sociaux qui parlaient de billets en vente pour dimanche. Mais voilà, billets en vente pour dimanche.
Oui, c'était précisé dimanche, mais pas les autres jours. Donc peut-être que c'était sold out pour vendredi, samedi. J'ai pas vérifié l'info.
Visiblement, personne n'a plus d'infos. Okay.
Je me suis fait la même réflexion.
Bon, sinon, le jeu de Cannes de l'année, le Behind Cannes, est sold out avant même l'ouverture des portes au grand public. Donc voilà, tant pis pour eux.
Non, pas tant pis. En fait, ils ont annoncé en effet qu'il n'y en avait plus, hein, victime de leur succès, ce qui est plutôt chouette pour le jeu. En revanche, ils ont annoncé donc qu'il y avait des précos possibles et qu'il y aurait une livraison en juin directement au domicile des gens.
Bon, ouf! Si vous voulez le behind, vous pourrez l'avoir quand même. Et sinon, dehors, l'année dernière, on était chez Alice et cette année, on est au milieu des miroirs. Est-ce qu'on a pu aller au milieu des miroirs? Est-ce que quelqu'un a pu faire l'animation autour de la table?
Alors, on était très intéressés pour aller faire cette animation. Plusieurs d'entre nous voulaient y aller. Donc, on est allé se renseigner sur comment ça fonctionnait. Donc, c'est une animation qui dure 30 minutes. Sur la terrasse, hein, y a un endroit spécifique pour cela. 30 minutes de spectacle, de quelque chose à l'intérieur et 30 minutes pour remettre en état pour la séance d'après. Y a des séances à 11h, midi, 14h, 15h et 16h. Mais il faut attendre devant, il y a une jauge à 48 personnes. Donc en gros, il faut arriver presque, je pense, une heure avant la séance qu'on vise, se mettre dans la file d'attente. Attendre. Et donc, ça fait que pour une demi-heure, il faut y consacrer une heure et demie.
Et donc, peu de personnes, si on fait bien les calculs, tu dis 5 créneaux à environ 50 personnes, ça fait 250 personnes par jour. C'est quand même...
Sur trois jours,
ça fait pas lourd.
Ça fait pas lourd.
De festivaliers.
Ouais, certes, mais c'est une belle initiative malgré tout. Je me suis fait la réflexion en me disant, il va y avoir beaucoup de déçus. Oui, mais ceux qui l'ont fait, finalement, belle initiative qu'on apprécie.
Après, c'est peut-être pas le genre d'initiative adaptée à un festival aussi grand.
Mais surtout, ils auraient pu faire un système d'inscription parce que, je sais pas si on en a déjà parlé, il y a un wagon de la SNCF aussi devant le festival dans lequel il y a une escape dans le wagon sur la thématique des loups-garous, je crois. Et là, il y avait une permanence sur place avec des gens pour informer et pour prendre des inscriptions sur des créneaux horaires. C'est une escape qui dure pareil une demi-heure jusqu'à 6 ou 7 personnes. Et du coup, dès le premier jour, on pouvait aller s'inscrire sur un créneau du jeudi au dimanche. Donc peut-être que s'ils avaient fait ce système aussi d'inscription ou de... Et surtout parce que le truc, c'est qu'il y a une petite affichette devant ce palais des miroirs là, mais on sait pas forcément trop comment ça se passe. Il y a pas trop il y a personne pour renseigner les gens en fait.
S'ils avaient fait ça, ça serait moins accessible au grand public. Et du coup, c'est plus égalitaire,
oui,
je pense.
Sûr.
Alors, s'il y a des agents de sécurité qui s'occupent de renseigner les gens, de gérer l'attente, etc. Et donc, sur un cercle tout autour du pavillon, il y a des gens qui sont allongés, assis par terre, en plein soleil, en attendant la mort ou l'entrée, je ne sais pas bien. Ouais, c'est impressionnant. Ouais.
Et en parlant de file d'attente, il paraît, Kurt, que toi, tu as fait une longue file d'attente aussi.
J'ai fait un bout d'une longue file d'attente. Et depuis cette année, le FIGE a mis en place une bourse aux jeux d'occasion qui était ouverte hier toute l'après-midi pour venir déposer des jeux. On en a parlé déjà ou non? Donc le principe, c'est que, alors c'est un principe un peu spécial. Vous venez déposer vos jeux d'occasion. Et s'ils sont vendus, vous récupérez des bons d'achat qui sont utilisables que dans les boutiques du festival. Voilà. Donc les gens pouvaient déposer leurs jeux hier dans l'après-midi, aujourd'hui toute la matinée. Et la boutique était ouverte aux visiteurs à partir de 13h aujourd'hui.
Du coup, t'as acheté quoi ?
Un coup de soleil.
C'est joli.
J'ai attendu un bon 20 minutes. J'ai fait le calcul de la distance sur laquelle j'ai avancé par rapport à la distance qui restait à faire. J'ai estimé que ça faisait à peu près 1h20 et je me suis barré.
Ok, bon bah, peut-être que tu y retourneras demain.
C'est pas comme ça que t'auras ton manque-porte, toi, hein, je te dirai.
J'en ai déjà.
Hein. Ah.
Donc tu peux y retourner demain, mais oublie pas de prendre une casquette.
Et sinon, il y a aussi des conférences sur le festival. Donc aujourd'hui, il y en avait pas mal. Il y en avait une sur les jeux et la politique ce matin. Et cet après-midi, Caducée et moi, nous sommes allés voir celle qui s'appelait Femmes et Jeux. Quels enjeux aujourd'hui? Et donc Caducée, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît?
Alors, on a assisté à cette conférence en début d'après-midi qui était menée par Anouk Girard, Élodie Clément et Chloé Lafleur. Il n'y a pas de captation audio ni vidéo car ça amène en fait à des témoignages du public. On était nombreuses et nombreux pour ce temps d'échange autour donc des représentations, des expériences et des enjeux de parité dans le monde ludique. Donc et soyez-en certains et certaines, il y a encore beaucoup de boulot.
Carrément, et c'était vraiment intéressant. C'était vraiment et c'est vrai que ça peut être frustrant de se dire que cette conf elle est pas filmée, pas enregistrée, mais ça a vraiment permis de libérer la parole et aussi d'anonymiser les différents témoignages des gens présents. Et ouais, c'était un chouette moment et c'est très bien aussi que le FIJ se mobilise sur ce genre de sujet.
Et par rapport à ce sujet-là, d'ailleurs, Caducée avait parlé de la safe zone lors du premier débrief. Du coup, je suis passé à la safe zone, voir un petit peu les gens de Safe in Game. Et ils ont une initiative qui est aussi assez sympa. Ils ont fait des sortes de sneaky cards. Vous savez, ces cartes qui ont des petites objectifs, des petites missions qu'on peut se filer ou se cacher. Et justement, ils en ont fait des spécifiques pour visibiliser les propos et comportements sexistes et visibiliser aussi les propos et comportements inclusifs, donc positifs et négatifs. Donc c'est des cartes à se refiler ou à refiler à des gens qui ont des comportements soit positifs, soit plutôt négatifs. Là, j'en ai une, par exemple, qui est « Passe cette carte à quelqu'un qui confond humour et oppression ». Donc, c'est une manière de faire passer des messages. Alors, ça peut être plus ou moins mal pris, je pense, mais ça permet de faire passer des messages. Et aussi de valoriser les comportements positifs, puisque j'en ai une autre qui est « Passe cette carte à quelqu'un qui genre sa règle de jeu de manière inclusive ». Et voilà, ça permet de passer des cartes safe in game. Il y a aussi, après, le lien vers le site avec... la personne qui t'a remis cette carte t'invite à te renseigner sur les actions de Safe in Game. Donc c'est une manière d'ouvrir la discussion sur ce sujet et plutôt une bonne initiative qui aussi allie le côté informatif et le côté un peu ludique de se passer des cartes.
On vous déconseille de toutes les collectionner, ça serait pas forcément positif. Il est temps maintenant de passer au jeu. Donc c'est toi, Lana, qui va ouvrir le bal avec quoi?
Non, avec Koï.
Ah pardon. Avec Koï. Donc en espérant que ce jeu ne t'ait pas laissé muette comme une carpe.
Koï, un magnifique PPP, un jeu de pièces en plexi avec des poissons. Non, un jeu de pose de poissons en plastique. Bon, en fait, c'est un bon résumé. Bon, je vais développer un petit peu. Pour moi, c'est en fait un mix de Acropolis boosté pour la pose de tuiles qui vont scorer que si elles sont placées à certains endroits. Et mixé avec Château de Bourgogne pour le côté je dois d'abord récolter mes tuiles et les mettre dans mon lieu de stockage avant de pouvoir les poser. On ajoute à ça des scorings différents qui peuvent changer à chaque partie et une édition impeccable. C'est vraiment très très beau, très bien édité. Et je crois que j'ai résumé Koï. C'est un jeu faussement chill. L'univers dans lequel il baigne, le bassin, tout ça, vous l'avez. Mais en fait, c'est plutôt brainy. Et Koï, est-ce que c'est bien? Parce que c'est ça la question. Mouef. Le principe est plutôt très classique, hein, la pose de tuiles, le scoring en fonction des différentes contraintes. Mais en fait, c'est long, ça manque de dynamisme. Le fait de devoir passer par un stockage avant de poser ses tuiles, moi je trouve que ça ralentit le jeu. Le jeu est annoncé pour 45 minutes. Ben, je vous jure, ça n'a pas tenu sa promesse. Alors, ok, on a peut-être traîné un peu, mais ça traîne en longueur.
Vous y êtes resté combien de temps ?
Une heure et demie, je pense, sur une première partie. On est revenu de temps en temps dans les règles. Pas trop, alors on a discuté entre-temps. Hein. Vraiment, il n'y a pas que le jeu. On n'était pas à fond dedans. Mais on est allé presque au bout de tous les objectifs, de toutes les constructions possibles, etc.
Alors, peut-être qu'on a... De toutes les cartes.
Ouais. Donc, on n'a certainement pas été dans le mode course que propose le jeu. Mais du coup, on a cette impression de longueur.
Moi, il y a juste un truc que j'ai trouvé chouette. C'était, il y a quand même une montée en puissance du jeu avec l'utilisation des, on peut récupérer des ouvriers et ouvrières qui vont nous permettre d'aller multiplier les actions. Et ce truc-là, je l'ai trouvé plutôt sympa. Cette impression de faire vraiment des fois des bons coups. En un tour, t'arrives à, comme ça, bien mobiliser tes actions et arriver à faire 5-6 actions de suite. Je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt agréable. Mais en effet, je pense qu'il aurait fallu un tas de cartes, presque de moitié moins.
Alors, il était déjà réduit parce qu'il dépend du nombre de joueuses. Mais ça n'a pas suffi. Et cette accélération marche bien si la rivière de cartes te propose les cartes qui combattent bien avec ton jeu. Sinon, ça n'aide pas. Voilà. Donc, c'est un gros mouef pour moi, j'avoue. Très beau, mais on répète, avoir un beau jeu ne suffit pas.
Complètement d'accord avec toi.
Koi, c'est un jeu qui a plusieurs auteurs. Rosaria Battiato, Massimo Borzi, Martino Ciacciera, je pense que ce sont des Italiens, illustré par Emiliano Castellano et qu'on a pu jouer chez Ravensburger.
Et donc, merci beaucoup Lana, on va passer à Drew maintenant et toi tu vas du côté de Leda, donc on est sur la mythologie nordique.
Peut-être indirectement, mais je ne crois pas. Je crois que Leda c'est un satellite de Saturne, Jupiter, je ne sais plus trop, mais en fait on est chez Sorry We Are French. Vous vous souvenez, Ganymède, tout ça, où il reste un petit peu autour de ces satellites de planètes, et bien là ils nous sortent Leda, qui est aussi un satellite donc, mais qui n'a rien à voir avec l'espace comme pouvait être Ganymède, puisque là on est sur un jeu d'affrontement à deux joueurs où on va chacun incarner une faction. Donc on redescend sur une terre imaginaire, on va dire, et c'est des factions représentées par des animaux. Donc jeu exclusivement deux joueurs où il va y avoir une partie matérialisée devant nous sur un plateau de tuiles de 4x4, chaque tuile ayant une petite action, où ça peut être gagner des ressources, déclencher l'action de notre peuple, faire du combat. Et donc à chaque tour on va piocher une petite tuile qui va donner l'opportunité au joueur actif de choisir ce qu'il va activer. Le choix sur cette tuile va lui dire: tu peux activer soit la ligne 1, soit la colonne 1, soit le carré 1. Le carré 1, en fait, c'est le carré de 4 cartes. On a bien compris qu'on a 16 cartes, 4 par 4. Et donc, c'est le carré de 4 cartes qui est en haut à gauche. Le 2, donc, c'est la deuxième ligne, deuxième colonne, ou le carré de 4 cartes qui est en haut à droite, le 3, etc. Et la cinquième tuile possible, c'est vous activer le carré central ou les 4 cases de coin. Donc ça, c'est le joueur actif. Quand il tire cette tuile, il a le choix que lui propose cette tuile. Mais attention, parce qu'il va activer ça chez lui, mais il va aussi donner la possibilité à l'autre joueur d'activer la même zone que celle qu'il choisit. Donc on regarde son plateau, on regarde le plateau de l'autre, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce que je lui donne, est-ce que j'accepte qu'il gagne, parce que dans cette tuile qu'on a devant soi, comme je vous le disais, il y a des icônes de combat. Donc s'il a plus de combat, d'icônes de combat que moi, à la fin du tour, il va remporter la victoire militaire, mais qui n'est pas une victoire de jeu, juste une victoire de manche, il va piocher une tuile. Et donc, comme je l'ai dit au départ, on a des peuples différents, dont même les objectifs vont être différents. Typiquement, sur le salon, ils nous font jouer les requins et les pandas. Les pandas zen, mais qui attaquent quand même. Et donc, les requins, pour gagner, doivent gagner 9 points de victoire ou poser 9 requins sur les cartes. Et les pandas doivent gagner 7 points de victoire ou arriver à poser les cartes qu'on en main. Je ne j'ai pas encore expliqué, mais on a des cartes en main. Et les pandas ont des cartes bronze, argent, or qui vont monter les unes sur les autres successivement. Ils doivent poser ces deux cartes or. On a donc des cartes de peuple qu'on va piocher au fur et à mesure de la partie par des actions de tuiles. Et on va pouvoir les dépenser à la fin du tour, après notre combat, pour les poser sur nos tuiles. Donc on voit que les cartes qu'on va poser sur les tuiles vont bloquer les tuiles, mais en général, les cartes sont plus intéressantes que les tuiles. Donc on va avoir comme ça un plateau devant nous qui va monter en puissance. qui va nous apporter nos conditions de fin de partie. Et on a eu un petit doute à un moment parce que, alors, j'avais les requins, Lana avait les pandas, et les requins sont un peuple qui partent très fort. En gros, en 2-3 tours, j'étais déjà à la moitié de mes conditions de victoire. Là où les pandas, comme c'est des cartes qui doivent se superposer et monter en puissance, et ben, le moteur est un peu long à se mettre en place, mais en fait, rattrape les requins derrière. Et au final, bah, c'est les pandas qui ont gagné, quand même. Hein. Donc,
Moi, ça m'a fait un effet un peu comme dans Route, où les chats dominent tout au départ. Et au final, ils disparaissent, ils s'affaiblissent un petit peu sur certaines choses. Et les autres reprennent du pouvoir. Et vraiment, ça m'a fait cet effet-là d'une courbe décroissante d'un côté, montante de l'autre, qui s'est croisée et qui s'est vraiment équilibrée.
C'est des mécaniques assez classique des jeux d'affrontement. En fait, on va créer de la symétrie avec des typologies. Typiquement, hier, on avait joué à Rift Band avec Peter. On avait un deck rampe d'un côté. C'est les decks qui mettent du temps à se développer. Et à côté, tu peux avoir des decks ce qu'on appelle aggro, qui vont avoir beaucoup de créatures et qui vont vite prendre de la place sur le terrain, mais qui vont se faire surpasser. Donc, on est typiquement dans ce genre de dynamique. C'est pas voilà, c'est fréquent dans des jeux d'affrontement. J'imagine qu'il y a d'autres factions, elles vont avoir d'autres typologies comme ça, quoi.
J'imagine il y a 4 factions dans la.
Factions de la boîte de base et ils ont déjà prévu de sortir 4 autres factions plus tard, et dans la boîte de base il y a déjà les rangements pour les 4 nouvelles factions. Après on a discuté avec l'animateur, donc qui est de Sorry Warpench, hein, c'est pas un animateur juste pour le salon, mais en fait il nous disait, parce qu'on revenait sur cet effet des requins qui semblaient plus forts et plus rapides, il nous disait en fait on est parti des requins pour le développement, on a vu que les requins gagnaient en à peu près 14 tours, donc on a équilibré toutes les autres factions pour que ça tombe aussi à peu près dans les 14 tours. Et effectivement, par des effets de cartes, d'équilibrage, arriver comme ça à des victoires tendues, mais qui se croisent à peu près dans le même nombre de tours. Ce qu'on a pu constater, du coup, parce que donc Lana a gagné, mais on était vraiment... c'était ou les pandas ou les requins qui gagnaient. On était au dernier tour, au moment de la victoire. Sachant que, en fait, on a tous les deux fini sur le même tour, mais comme les pandas avaient l'initiative, c'est les pandas qui ont gagné.
Ouais, c'était vraiment dans le même tour, donc... Super bien équilibré avec cette mécanique où on sent la progression, on sent le moteur qui se met en route, on fait des upgrades, on essaye de comboter, d'agencer nos tuiles parce qu'on a moyen de réorganiser un peu notre tableau pour que les lignes qui sont pas encore sorties et donc qu'on a toutes les chances de voir apparaître pour les activer. Soit efficace, très très plaisant.
Ouais, il y a un petit truc malin aussi parce qu'il y a une carte d'aide de jeu et au verso de la carte d'aide de jeu, ça nous montre notre grille de 16 tuiles et qui nous dit là dans l'angle à droite, elle a 3 chances de sortir avec toutes les petites tuiles d'activation. Là au milieu, elle a 2 chances de sortir. Là en bas à gauche, elle a 4 chances de sortir. Donc quand on va pour améliorer nos tuiles, on se dit c'est laquelle qui a le plus de chances de sortir, donc laquelle j'améliore en premier ou laquelle je vais déplacer dans ce coin-là parce que je sais que ce coin-là va être actif plus souvent. Donc il y a aussi ce petit exercice-là et c'est très sympa d'avoir mis les probabilités à disposition des joueurs, je trouve. Donc c'était Leda, un jeu de Pierrick et Renaud Libralesso et Yoel Sayada, illustré par David Sidbon, hein, on est chez Sorry We Are French, et le jeu sortira au mois de juin, je crois que c'est une exclusivité PEL, hein, ici il était juste en démonstration, il sera aussi je crois peut-être un petit peu à l'alchimie, mais la sortie officielle c'est pour le week-end du PEL.
Et merci beaucoup Drew. Cyrus, tu t'es pris pour MacGyver, là ? T'as pris deux bouts de ficelle et ton canif ?
Donc, le jeu s'appelle...
Le jeu de la ficelle ?
Le jeu de la ficelle. Alors, je vais vous faire un mini nanar ludique. Je vous fais le tout début. À votre avis, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, évidemment, s'il vous plaît, de quel genre de jeu pourrait-il s'agir ?
Ça ressemble au jeu du doigt, le titre, déjà.
Ah, moi, je dirais un jeu d'adresse avec une ficelle.
Ouais, ok, d'accord. Le jeu du doigt, c'était pas de l'adresse. C'était, oui, il fallait faire des symboles et puis pour gagner ou je sais pas quoi. Tu dis pardon?
Un jeu de course?
Un jeu de course.
Ah,
ouais.
Non, moi, je connais. C'est dans les foires comme ça où t'as la ficelle qui est enroulée autour du saucisson, puis il faut deviner la longueur. C'est ça?
Ouais. Eh ben, vous avez tous et toutes faux. Incroyable. Donc, autant vous dire que le titre du jeu, déjà, est quand même très très mal choisi. Mais, heureusement, moi j'ai été très séduit par la mise en scène que propose le jeu. Et donc, maintenant, vous devez me demander, mais de quoi s'agit-il comme genre de jeu ?
Mais de quoi s'agit-il comme genre de jeu ?
C'est un jeu d'association d'idées. Et oui, encore un. Oui, encore un. Alors, autant vous dire que ça invente absolument pas la roue. C'est très proche de Give Me Five. Vous vous rappelez Give Me Five? Le principe, c'est, je sais plus si on a un mot ou deux mots dans Give Me Five. Il va falloir simultanément, on va décompter 5, 4, 3, 2, 1. Il faut annoncer le même mot. Là, le principe, c'est que on a deux mots qui sont présentés. Donc, je sais pas, à un moment, on avait chien et case, je crois, c'était. Donc là, il y a deux personnes qui vont attraper chacun un bout de la ficelle. Une fois qu'ils ont attrapé le bout de la ficelle, ils décomptent 3, 2, 1. Et là, on dit niche. Et donc, si on donne le même mot, on gagne tout simplement une des deux cartes qui servait à donner les deux mots. Voilà, et on va proposer d'autres trucs. Il y a un autre petit twist, c'est que si jamais moi je dis niche et que toi tu dis chenille, par exemple, du coup, c'est les deux nouveaux mots pour trouver une nouvelle association d'idées. Et donc, des fois, tu te retrouves avec des trucs qui ont tendance un petit peu à converger comme ça. Et du coup, tu te retrouves à essayer de trouver un mot encore plus spécifique pour.
Mais c'est un jeu populaire, ça existait déjà. Ils ont mis en boîte un jeu peut-être. Qui existait. Ah oui, si, j'ai déjà entendu des gens en parler comme ça.
Ok, ouais, peut-être.
Enfin,
ouais.
Des gens y jouaient comme ça.
C'est pour ça que peut-être ça s'appelle le jeu de la ficelle. Et que du coup, c'est. Ouais. Je connais pas. Et moi, j'ai trouvé du coup que la mise en scène était vachement bien trouvée. Parce que t'es vraiment là en train d'attraper le bout de ficelle. Puis de temps en temps, t'es là, tu sais, il y a personne qui vient. Alors t'es là en train de regarder les gens. Tu secoues la ficelle, tu l'attends. Tu dis, mais allez, viens. De toute façon, au pire, c'est pas très grave. En fait, tu perds en rien. Quand tu perds, tu vas, tant pis, quoi. Ça va rebondir sur d'autres mots après.
C'est un jeu de pêche, ton truc?
Ouais, là, pour le coup, le jeu de la ficelle, là, ça marche pour là, ouais. Voilà. Absolument rien d'original, mais j'avoue, j'ai été séduit par la mise en scène et le truc que ça crée autour de la table, en fait. Vraiment, ce petit truc du, on vient chercher la ficelle, il y a cette petite dimension de jeu de rapidité, avec le matériel qui va avec. C'est absolument tout con. C'est proposé chez Merle Édition. Effectivement, je connais pas le jeu traditionnel, sûrement duquel c'est issu.
Moi, il y avait pas. C'était juste pour deux joueurs et tu faisais ça et tu comptais le minimum de nombre de mots que t'avais, enfin de propositions que t'avais pour trouver le bon, te mettre le même mot, quoi.
Bon là, c'est un petit peu raffiné en termes de game design parce que du coup là, ça joue à plusieurs et il y a une petite dimension de rapidité.
Oui, il y a la rapidité qui peut être un peu frustrante quand on a du mal justement à avoir une idée de mot qui vient, et c'est souvent en fait les mêmes qui reprennent la ficelle en premier puisqu'il n'y a pas d'ordre du tour. Moi, ça m'a un petit peu frustré parce que je suis un petit peu lent pour trouver les mots. Donc finalement, on peut être spectateur d'une partie qui se joue entre deux ou trois personnes. Ça, c'est un peu dérangeant. Et on n'a pas le droit autre chose aussi, autre petit twist, on n'a pas le droit de redonner un mot qui a déjà été donné, donc ça force à se spécialiser davantage quand on fait un échec en fait sur une devinette comme ça. On va rentrer de plus en plus dans un détail et sans pouvoir redire un mot qui a déjà été donné, donc ça devient un peu plus compliqué à chaque fois.
Donc le jeu de la ficelle. Alors je trouve que le titre en anglais est mieux trouvé. Ça s'appelle Linked Minds. Donc, je sais pas si je prononce très bien le Linked Minds.
Linked. Les
esprits liés.
Et pas String Game.
C'est pas String Games. Qui aurait été peut-être un peu. Ouais, voilà. Ça joue de 3 à 8 joueurs et joueuses à partir de 8 ans, ils disent. C'est un jeu de Benjamin Leva. Voilà. Et ça sort pas tout de suite. Je sais plus, ils nous ont dit mai-juin, je crois.
Merci beaucoup, Cyrus. Peter, je crois que toi, t'as fait le chien de berger?
Non,
t'as pas fait le chien de berger. Bon, Peter n'a pas fait le chien de berger, mais toi aussi, t'occupé des carpes koi?
Ouais, moi, je me suis occupé des petites bêtes qui font quoi, 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 quoi.
C'est déjà fait quoi? C'est quoi?
Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais les carpes, elles font. Voilà.
C'est moins podcastique.
Donc, moi, c'était les grenouilles et les crapauds avec le jeu Nénuphar. Donc, on y a joué à 4 avec notamment Cyrus et Kurtz. Alors, c'est un jeu qui se présente sous la forme d'un tableau de tuiles, en fait, qui est déjà préconstruit. Sur ces tuiles, il y a des nénuphars. Hein. Sur chaque tuile, il y a un nénuphar et des fleurs de couleur. Et sur chaque tuile, il y a aussi un score, enfin, un chiffre qui correspond au nombre de points qu'on va gagner si on arrive à récupérer ce nénuphar. Les nénuphars qui ont le plus de fleurs vont apporter le plus de points. Et ces fleurs, elles ont une couleur. Et ces couleurs, c'est les mêmes que les couleurs des grenouilles qui vont être tout autour de ce plateau, tout autour sur deux côtés. Hein. Il va y avoir des grenouilles qui vont être sur les colonnes et des grenouilles sur les lignes, prêtes à bondir justement sur les nénuphars. Et ce qui a ce qui m'a particulièrement marqué justement dans ce jeu, c'est un petit peu la mise en scène où on a vraiment cette sensation des grenouilles qui bondissent du côté. Donc elles sont proche de la terre en fait, elles vont bondir au milieu de l'étang sur un nénuphar. Donc il n'y a pas de notion de distance, hein. Elles bondissent sur n'importe quel nénuphar en ligne droite. Et quand on arrive à mettre les grenouilles de la même couleur que les fleurs qui sont sur un nénuphar, vous en doutez, on récupère le nénuphar et les points qui vont avec, et on les met dans sa petite besace jusqu'à la fin de la partie où on va compter les points. Mais ces grenouilles, elles font couler le nénuphar, c'est comme ça qu'on le récupère, mais les grenouilles ne coulent pas. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles font sauf qui peut, et elles vont se redispatcher sur d'autres nénuphars qui sont en ligne droite. Alors orthogonalement, elles peuvent revenir en arrière, mais elles peuvent aussi, même si elles venaient d'une ligne, partir sur une colonne, et toujours pour aller sur des nénuphars qui ont des fleurs, qui sont inoccupés et qui sont à leur couleur. Et on peut comme ça, en cascade, enchaîner la collecte de nénuphars. Donc les plus malins, les plus futés arriveront à faire comme ça des combos de plusieurs nénuphars. Nous, ça nous est arrivé alors que c'était notre première partie et que on jouait quand même assez vite, donc on n'était pas du genre à calculer, pas moi en tout cas, peut-être peut-être les autres, mais en tout cas on calculait pas avec 5 coups d'avance. Mais même sans ça, on a réussi à faire des beaux enchaînements. Je pense que on a réussi à faire 4 ou 5 nénuphars dans un même tour. C'était assez satisfaisant parce qu'on a vraiment cette sensation-là en cascade, un petit peu comme un tréfuté ou un super méga lucky box, à enchaîner les combos comme ça et donc à collecter les points. Donc une belle mise en scène là-dessus. On a la possibilité d'avoir des grenouilles jokers. Donc certains nénuphars donnent des grenouilles multicolores qui nous permettent de compléter un certain nénuphar, sorte d'action bonus qui permettent encore d'enchaîner. Et il y a aussi... Alors là, on a peu joué avec, mais c'est un élément stratégique important dans ce jeu. Il y a aussi les crapauds. Donc les crapauds, dès qu'ils arrivent sur un nénuphar, donc ils ont pas de couleur, les crapauds. Enfin, ça correspond pas à une couleur de fleur. Dès qu'ils arrivent sur un nénuphar, le nénuphar coule instantanément, quel que soit le nombre d'autres grenouilles qu'il y a dessus. Et les grenouilles qui pouvaient être présentes dessus. Donc le nénuphar n'est pas remporté par le joueur qui a déplacé le crapaud, mais par contre, les grenouilles, elles vont s'échapper et vont réussir à se sauver sur des nénuphars à proximité, orthogonalement. Et on peut comme ça, à l'aide d'un crapaud, finalement, faire des points et envoyer des grenouilles d'un nénuphar qui n'était pas complet vers d'autres nénuphars et comme ça collecter des points. Donc c'est une réflexion stratégique là pour le coup. Nous on l'a pas eu, on n'a pas vraiment joué avec les crapauds. Les crapauds se trouvaient être plutôt une action par défaut, mais je pense qu'il y a une profondeur dans ce jeu qui peut être intéressante avec ces crapauds, et en utilisant toutes ces actions comme ça, ça peut être vraiment assez satisfaisant, voire vider une bonne partie du plateau en un seul tour. Voilà, moi un petit regret quand même que j'ai eu, c'est que c'est pas un jeu qui est adapté aux daltoniens, puisque les fleurs ont toutes la même forme, c'est fort dommage. Elles ressemblent toutes un petit peu à des pâquerettes et elles ont une couleur. C'est vraiment dommage parce qu'il suffisait de faire des fleurs de formes différentes et le tour était joué. Là, c'est un petit peu dommage. Juste pour finir, cet éditeur, donc cet éditeur s'appelle Je t'aime. Voilà, ce n'est pas une déclaration. Mais il nous a donné des petites cartes de visite à la fin et qui comprenaient une zone à gratter. Voilà. Bon, on a tous perdu, mais ça nous permettait. C'était le jeu dans le jeu. C'était un jeu un peu méta. Et on a tous perdu, mais c'était rigolo d'avoir ces petites cartes à gratter à la fin. Voilà.
Là, je suis quasiment sûre d'y avoir joué il y a 3 ans, ici. Mon premier fige avec Proxy Jeu.
C'est possible, je sais pas la date de sortie. Il est pas sur BGG en plus, c'est le jeu.
Mais qui était, je pense, sous une forme soit d'auto-édition, soit en tout cas pas la même boîte que ce que je viens de voir sur le distributeur Je Délire. Mais les mécaniques de jeu me disent vraiment fort des choses.
Sorti en 2024 selon MyLudo.
Je pense qu'il y avait peut-être une version précédente, parce que vraiment mais je pense que c'était le même jeu, sauf qu'il n'y avait pas les crapauds dans mon souvenir.
En tout cas, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans, créé par Clément Fournier et illustré par Lisa Fix.
Bien, merci beaucoup Peter. Et maintenant, je vais garder la parole pour vous parler de Once Upon a Line. Donc moi, je suis allée me faire une découverte, une exploration de mots croisés. Alors dit comme ça paraît vraiment pas sexy, Et pourtant, j'ai trouvé mon exploration vraiment très chouette. Donc, dans un monde onirique, on incarne une héroïne ou un héros qui va explorer un monde de mots. L'exploration va se passer dans des grilles de type mots croisés qu'on va devoir gratter. Oui, oui, gratter façon banco, la française des jeux. Donc, on a un petit gratte-gratte. Ça, c'est hyper satisfaisant d'aller gratter nos lignes. Alors, faut vraiment... Ça marche super bien. Hein. Faut gratter un peu fort parce que ça a été imprimé par-dessus, etc. Faut être un peu précis. Sinon, si vous faites les bourrins, vous allez gratter des lettres que vous ne devriez pas gratter.
Et avoir son aspirateur de poche pour enlever tous les petits bouts de gratouille.
C'est vrai qu'il nettoyait bien les tables une fois le truc fini, une fois la démo finie. Donc, il propose une démo sur le fiche, démo qui n'est pas dans la boîte de jeu que vous pourriez retrouver. Donc en fait, à chacune de vos actions, vous allez faire apparaître des lettres ou des symboles qui vont vous permettre d'arpenter de nouveaux lieux. Donc il y a tout un système de tel mot est fermé par des petits traits, ça vous fait faire ci, tel mot est fermé par des petits crochets, ça vous fait faire ça. Vous avez aussi un système de gestion du nombre de cases que vous pouvez aller gratter avec des espèces de petites tirettes en carton que vous allez positionner sur votre grille et qui vont petit à petit s'amenuiser. Au fur et à mesure que vous les aurez toutes utilisées, vous allez devoir... c'est le temps qui passe et du coup, c'est votre connexion avec... Bon, j'avoue que le lore, vu le bruit que ça faisait et tout, c'est vrai qu'un jeu narratif, quand il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour, c'est difficile de rentrer dans l'univers. Donc, le lore, je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Mais il y a ce côté de on perd sa connexion psychique avec je sais pas quoi. Et donc, au fur et à mesure, nos capacités de grattage s'amenuisent. Donc, il ne faut pas aller s'amuser à aller gratter n'importe où, n'importe comment. Il faut gérer vraiment ce pool de jetons correctement et intelligemment. Et en fait, on a plein d'indices dans le texte qu'on va lire pour savoir où aller gratter. En fait, on gratte pas au hasard, on va pas aller chercher découvrir sa grille de mots croisés n'importe comment. Parce que voilà. Et en plus, si on gratte de manière effrénée, on va avoir des malus, donc de nouveau du temps qui passe et on perd des machins individuels. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu hyper atypique qui mélange les mots croisés, la déduction avec un peu d'énigmes. Qui nous force à aller vraiment à lire finement le sens de ce qui est dit dans les mots, dans les phrases, avec une écriture très, très, très belle. Vraiment, j'ai été séduite par la qualité de l'écriture. Et c'est vrai que c'était un jeu que j'avais vu passer en KS. Je m'étais dit, bon, les mots croisés, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu bizarre? Ça m'avait pas du tout séduit. Et bon, comme je dis parfois, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et j'ai vraiment adoré cette partie de démo. Et notamment, surtout pour sa narration. Enfin, pas que. Vraiment, cette mécanique d'aller chercher ces mots, d'aller se casser la tête, de cette prise de risque. Parce que des fois, tu vas gratter, on te dit, ouais, si vous tombez sur tel truc, ça va être fou pour vous. Donc, tu serres un peu les fesses quand tu grattes pour être sûr que ce que tu grattes, ça soit pas le truc qu'il faut pas rencontrer. Et notamment sur l'écriture, je vous ai noté une phrase que j'ai trouvée très belle, c'était « Les frelons effrayés s'enfuir ». Cette magnifique allitération en F. Moi, j'avoue que je suis très, très preneuse de la belle langue. Et là, j'ai trouvé ça vraiment très charmant dans l'écriture.
Tu es friande.
Voilà, je suis friande.
Est-ce qu'il y a dans la démo la petite énigme du père Fouras?
Tout à fait.
Il y en a aussi.
On a fini comme ça la démo avec cette petite énigme. Et nous, comme on avait récupéré un objet, on avait eu une sorte de... On savait que notre mot ne ferait que 4 lettres au maximum sur les 5 possibles, parce qu'on avait récupéré un truc. Non, c'était vraiment hyper agréable. Puis, voilà, moi j'ai fait la partie avec Paul Gara. On nous a offert un café aussi très gentiment, parce qu'elle connaissait l'animateur sur l'espace, qui a été adorable. Voilà, un grand salut à lui s'il nous écoute. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont nos deux esprits se sont calés et avec des espèces de coups d'éclat par moment, hyper satisfaisants. Donc voilà. Donc j'ai hâte de poursuivre la quête et d'aller continuer à aller sauver ce monde qui m'a l'air vraiment foisonnant et très intéressant.
C'est annoncé pour combien de joueurs, ce jeu ?
Alors là, on a discuté un peu avec l'auteur aussi, à qui j'ai dit que je trouvais sa langue très belle. Oh, enfin, son écriture très belle, hein, attention. Et a priori, personne n'avait vu l'allitération en F que je vous ai citée, donc ça l'a touché. Et il nous disait que vraiment, pour lui, la configuration idéale, c'est entre 1 et 3. Et qu'à plus, ça pouvait être compliqué, à moins peut-être dans une configuration familiale, avec chacun sa capacité, ses compétences. Par exemple, quelqu'un d'assez matheux qui va aller essayer d'optimiser au maximum les petites tirettes. Quelqu'un s'il y avait quelqu'un de dyslexique à la table, c'est peut-être pas cette personne-là qui va aller chercher les mots. Et puis quelqu'un d'un peu minutieux qui va aller à la gratouille, quoi. Parce que c'est sûr qu'il faut être un petit peu minutieux quand on gratte. Mais moi, je pense que à deux, j'ai trouvé ça vraiment idéal.
Un ou deux, ouais, je pense que c'est le bon nombre.
Je pense que c'est pour moi, ce type de jeu à deux avec la connexion d'esprit, avec ces espèces de rebonds, machin, pour moi, c'est vraiment comme ça que j'aime le mieux le faire. Mais bon, bah voilà, parce que j'aime aussi partager la narration, parce que l'idée de lire à voix haute, c'est un jeu à lire à voix haute aussi, vu que c'est très bien écrit. Bah voilà, vraiment belle surprise du festival. Donc c'est Once Upon a Line de Dan Touvenot et William Aubert, et c'est très joliment illustré par Vincent Lefebvre chez Perte et Fracas. Et donc un jeu en campagne avec aussi des extensions et voilà tout le tralala des jeux qui étaient d'abord sortis en KS. Maintenant je vais passer la parole à Pénoifix qui va aller arpenter un cimetière.
C'est ça. Je vais arpenter le cimetière de Spoon River avec les secrets de Wardenkin. Alors, qui est Wardenkin ? C'est l'ancien gardien de ce fameux cimetière. Et en fait, on a pris sa suite. Et en fait, comme il s'ennuyait dans le cimetière, il s'est amusé à résoudre et créer des énigmes. Et du coup, il nous met au défi de les résoudre à notre tour. Donc, c'est un jeu d'enquête et d'énigmes. Qui se joue en 11 mystères, en 11 petits scénarios, mais tout dans le même cimetière. Donc c'est assez intéressant parce que visuellement et esthétiquement, on a vraiment un cimetière devant nous avec les petites pierres tombales. Il y a plusieurs allées, plusieurs le portail, etc. Et en fait, on va utiliser les informations sur ces pierres tombales pour résoudre justement des énigmes. Et vérifier si on a les bonnes intuitions. Donc, on va utiliser tout simplement les dates, les noms des personnes, les épitaphes, les gravures, les fleurs qu'il peut y avoir sur certaines tombes. Donc, il y a 11 scénarios, 11 mystères, comme je disais. Sur Cannes, on n'en fait que 2 ou 3, les 2 ou 3 premières. Pour le coup, nous, on a fait les 2 premières, qui sont assez rapides, mais a priori, c'est vraiment prévu pour être de l'initiation, les premières. À partir de la quatrième, c'est pour ça qu'ils font faire les 3 premières. A priori, à partir de la quatrième, il y a vraiment un gap au niveau de la complexité des énigmes. Mais c'est assez intéressant. On a des petits éléments. En gros, souvent, on doit trouver une personne. Donc, parmi les habitants du cimetière, on va devoir trouver une personne qui répond à la problématique ou à l'enquête qu'on a. Et on a des petites corneilles qu'on va pouvoir placer sur les autres tombes pour faire le cheminement en fait logique pour qui nous mène à cette personne-là. Un jeu d'enquête dont les énigmes sont plutôt classiques, mais c'est plutôt l'environnement et la manière dont on va les résoudre qui est original. Fort est de constater que l'expérience a été plutôt agréable.
C'est du one shot alors ?
Ouais, j'ai l'impression que c'est du one shot. J'avais un peu peur justement, comme les deux premières sont assez rapides, j'avais peur que on arrive assez vite au bout. Mais ça, les animateurs m'ont rassuré en disant que plus on avançait, plus les énigmes étaient complexes et plus les mystères étaient longs potentiellement à résoudre. Mais c'est marrant parce que on se retrouve à faire des associations d'idées, on se retrouve à chercher des choses dans ce cimetière, à tout regarder, à tout scruter dans le détail. J'avais l'impression, alors à un moment, les tombes sont, donc il y a un poster quand même pour faire le fond du cimetière, et après les tombes c'est des espèces de tuiles qu'on met sur le truc, mais elles ont toutes un peu des formes et des allures différentes, donc ça fait vraiment un effet ça fait pas effet jeu de tuiles quoi, ça fait vraiment un petit peu effet cimetière réel. Et il y a même des tombes qui ont des doubles tuiles qui ont du volume, de l'épaisseur. Et à un moment, moi j'ai cru qu'on allait pouvoir ouvrir des tombes ou chercher des trucs à l'intérieur, mais en fait non, c'est encollé, et du coup alors je sais pas, peut-être que il y a certains mystères,
peut-être pas dans les deux premiers, ouais
c'est ça, peut-être pas dans les premiers, mais bon, j'ai essayé de regarder s'il y avait des tuiles qui pouvait un peu se bouger, mais ça a l'air encollé.
Est-ce que ça fait peur un petit peu?
Alors, les deux premiers scénarios, pas vraiment. Après, c'est une ambiance, voilà, c'est une ambiance cimetière. La boîte et les illustrations sont de Florian Belmonte, qui s'est vachement, on l'a croisé parce qu'il faisait des dédicaces quand on a essayé le jeu. Et il a confirmé. Moi, j'ai tout de suite vu au style visuel, c'est très très inspiré de Mike Mignola, qui a fait Hellboy, qui a fait voilà beaucoup de choses autour de Lovecraft. Donc il y a cette esthétique que j'aime bien moi. Et voilà, Florent a confirmé que c'était clairement l'inspiration. Mais les énigmes en elles-mêmes ne font pas particulièrement peur. J'ai l'impression que ça peut toucher des sujets qui peuvent être un peu sensibles. Enfin, peut y avoir des histoires de mœurs un peu qu'on découvre à travers les différentes pierres tombales et les emplacements des gens, des uns et des autres dans le cimetière, des épitaphes, etc. Donc non, plutôt intéressant. Voilà, un jeu d'énigmes et de déduction somme toute classique dans la réflexion qu'on va faire et ce qu'on va se dire entre participants. C'est du coopératif bien sûr, hein. On est tous ensemble pour résoudre les énigmes, mais dans la mise en scène c'est plutôt assez intéressant.
Et tu sais s'il y a un système d'aide sur les énigmes les plus compliquées après?
Alors il n'y a pas vraiment de système d'aide, mais en fait donc il y a toujours un livret, il y a le carnet finalement, il y a le carnet de Wardenkin qui est un petit peu à la fois le guide, à la fois l'aide et à la fois la résolution, puisque quand tu penses avoir résolu l'énigme, tu vas à la page suivante du carnet et t'as une petite feuille pour cacher un petit peu les réponses. Et en fait, avant de donner la réponse de l'énigme, Warden t'explique son cheminement. Donc de quelle tombe tu dois partir, qu'est-ce que tu dois déduire. Et donc là, si t'as pas suivi le même cheminement, ou si tu vois que t'as une erreur, ou voilà, si t'es bloqué, tu peux aller voir un peu, tu peux passer les premiers trucs que t'as trouvé et voir un peu quelle est l'étape suivante pour continuer le cheminement. Donc c'est pas faut tout trouver ou rien trouver. Tu peux aller consulter le cheminement pour te débloquer sur au milieu de l'énigme si vraiment tu coinces quoi. C'est plutôt bien fait. Après, il y avait un élément de jeu, un espèce de... Je sais plus si c'était un calendrier ou quelque chose qu'on n'a pas utilisé dans les premières énigmes. Donc, il y a des petits éléments en plus qui doivent apporter un peu certains twists et certaines choses. Voilà, c'est assez prometteur, en tout cas. Et même sur des énigmes un peu d'initiation, ça, c'est intéressant. Et vraiment, l'esthétique très cool. La mise en scène et l'esthétique très cool.
Les scénarios que tu as testés sont les premiers de la boîte ou c'est des scénarios faits exprès pour le salon?
Non, par contre, ça, c'est vraiment les premiers de la boîte. Ouais. Donc, mais comme je te dis, les deux premiers sont vraiment assez courts et sont une introduction un peu au système de jeu. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils les font faire. Effectivement, ça te gâche un petit peu les deux premiers. Mais le premier, ça nous a pris même pas 10 minutes, tu vois. Donc, c'est pas... Je pense que par rapport au temps à passer dans la boîte, le ratio est vraiment pas énorme parce que les énigmes suivantes doivent être beaucoup plus, sont de plus en plus longues. C'est vraiment le premier, c'est vraiment initiation. C'est un peu comme le scénario Unlock là, l'initiation, je pense.
Tu le refais pas forcément
une deuxième fois.
C'est un tutoriel quoi.
Ouais, c'est vraiment le premier, c'est vraiment un tutoriel. Le deuxième est aussi assez court. Le deuxième, on a dû le faire en 15 minutes, mais je pense que voilà, à ce qu'on nous a dit. Ça s'étoffe vraiment à partir du quatrième.
Mais peut-être un peu comme un Magikarta l'année dernière.
Oui, oui.
Pareil,
c'est vrai.
On avait fait les deux premiers chapitres et ça n'avait pas empêché d'en prendre.
Ouais, puis je les avais refaits en fait après en faisant la boîte. Oui,
oui pareil. Ouais. Et ça n'avait pas gâché le plaisir, même si on avait fait les deux premiers chapitres sur le festival.
Voilà, bah c'était Les Secrets de Wardenkin, un jeu de Paolo Mori, encore lui, et Silvano Sorrentino. Il est partout en ce moment, Paolo. Hein. On a eu Captain Flip, Toy Battle, là on a Les Mystères de Wardenkin. Donc Paolo Mori et Silvano Sorrentino, illustré par Florian Belmonte, c'est édité chez Bombix. Et c'est déjà disponible.
Et donné à partir de quel âge?
Donné à partir de 10 ans. Et par contre, il y a un message explicite que c'est ne convient pas aux enfants de 3 ans parce qu'il y a des petites pièces et des petits corbeaux, des petits machins. Donc voilà, c'est
okay. Ça, c'est un message classique quand
même. Oui, oui, oui. Ouais.
Paolo Mori là-dessus, c'est assez étonnant quand même. On l'a pas vu sur des genres de jeux comme ça encore. Il se diversifie.
Ouais, tout à fait. Il est plutôt sur des jeux assez mécaniques et là, on est vraiment sur un truc à scénario. Donc, mais il n'est pas seul. Donc peut-être que.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît FX. Et maintenant, on va passer à Caducé qui va nous parler de First Giants. Je ne suis pas arrivée à trouver de jeu de mots ou de trucs pour te lancer,
non.
Je suis désolée.
Écoute, le nom complet, c'est First Giants, petite galerie de l'évolution. Alors, je vous dirai après de qui c'est, par qui ça a été illustré, etc. C'est un jeu de collection dans lequel on va créer des expositions d'animaux préhistoriques. Chaque joueuse a 4 pions d'action et à chaque tour, elle va pouvoir se positionner sur une des 4 zones de fouille du centre de la table, à condition de ne pas déjà y être présente. Ceci permet de récupérer une des 2 cartes du site de fouille choisi. Et cette carte, elle va être installée dans sa zone de jeu personnelle, qui elle-même est divisée en 2 parties, une zone d'étude et une zone d'exposition. Sachant qu'une nouvelle carte arrive toujours dans la zone d'étude. Sur ces cartes, il y a des choses assez classiques, des animaux préhistoriques, vous vous en doutez, mais 5 couleurs différentes et des valeurs de 1 à 3. Et elles ont également des pouvoirs, et c'est ça surtout que j'attendais, qui peuvent se déclencher donc soit à la pause, soit en continu, ou encore dépendant des cartes que vous possédez déjà, que vous allez acquérir ou que les autres acquièrent par la suite. Le truc cool, c'est que les pouvoirs de ces cartes ne sont actifs que lorsqu'elles sont présentes dans votre zone d'étude. Mais si vous voulez marquer des points, il faudra vous en séparer, les sacrifier pour les basculer dans votre zone d'exposition. Ça devrait déjà vous faire penser à des petites choses connues. Donc pour pouvoir les mettre en zone d'exposition, il y a soit des effets de cartes, soit vous le faites en fait au moment de récupérer les jetons du plateau central. Hein, ça vous fait perdre un tour, mais ça vous permet de poser une carte en zone d'expo. Et les cartes, elles ont d'ailleurs un verso, ça c'est assez chouette, adapté en fait à cette zone d'exposition qui fait disparaître son pouvoir et laisse apparaître l'animal qui va être exposé sur un fond noir, c'est très esthétique, avec des petites barrières et des cordelettes comme dans les musées. Et les points vont être représentés par des jetons barrières que vous récupérez à chaque fois que vous faites grandir une collection et qui est d'ailleurs valorisée à la fin si celle-ci est complète. Vous avez également des points par d'autres systèmes, mais on ne va pas développer plus que ça. Il y a d'autres façons de récupérer des points. Et si je vous dis maintenant que les auteurs sont Matthew Dunstan et Brett Gibert, vous allez probablement faire la relation avec
Elysium,
qu'on retrouvait déjà cette notion de sacrifice de cartes, qui est moi une mécanique que j'adore. Enfin, c'est des choix terribles de sacrifice à chaque fois. Je trouve ça génial. Qu'on a d'ailleurs croisé un peu plus récemment dans Arigato. Mais bon, on avait déjà éludé le cas de Arigato dans le jeton dans la mare. Et la question est donc, est-ce que First Giants est à la hauteur de Elysium? Réponse, non. Les pouvoirs sont trop similaires, le jeu est très gentil, il génère très peu d'interactions entre les joueuses, on n'a pas été gêné par les ressources d'ambre qui sont le moyen de payer en fait pour exposer. On a tous fini avec quasiment le même nombre de points, je crois qu'à 2 ou 3 points max près, on a joué à 5, j'étais la seule de l'équipe de proxy jeu, donc j'ai joué avec des personnes que je ne connaissais pas, qui avaient l'air d'être des joueurs habitués. On a tous fini dans la même zone de points de fin de partie. Là, il y a vraiment trop de choses qui vont pas pour qu'il puisse gagner une place dans mon cœur. C'est une sorte d'Elysium édulcoré. Alors, il est beau, voilà. Un jeu beau, mais Elysium est complètement édulcoré. Et donc, je vais dire ce soir, stop au jeu gentil. Demain, il faut essayer que vous... Enfin, faut me trouver un jeu frustrant, méchant, avec des pouvoirs dingues et des choix drastiques. Voilà. Parce que là, c'était vraiment, encore une fois, un plouf. Et c'est vrai que je crois que c'est pas le... Voilà, on parlait de la tendance des jeux à deux, mais il y a aussi un peu la tendance des jeux un peu trop gentils avec les joueuses, avec les joueurs. Il y a des fois où on a envie un peu de lutter, alors certes contre nos partenaires de jeu, mais aussi un peu contre le jeu, quoi. On a, voilà. Et là, bah, une fois de plus, il y a ce système de sacrifice de cartes qui est génial, qui est, enfin, pas sous-exploité, mais qui est exploité d'une manière qui est bien trop gentille pour que ça me plaise. Voilà.
Bien, merci beaucoup, Caduce. Désolée pour toi que ce First Giants n'ait pas été un panthéon. Il n'est pas été à la hauteur.
Je vais garder Elysium. C'était donc First Giants, petite galerie de l'évolution de Matthew Dunstan et Brett Gilbert, illustré par Maud Chalmel et Jessica Cognard et édité par les Space Cowboys.
Et maintenant, on passe à la séquence jeu enfant de l'émission. Et Kurt, tu as été faire un premier deck building. Vas-y, raconte-nous cette expérience.
Mon premier deck building, effectivement. Alors, si vous cherchez un jeu de deck building long, compliqué, avec des tas d'enchaînements, des tas d'actions, passez tout de suite votre chemin. C'est pas du tout ça. Le but de l'auteur, il nous l'a clairement fait comprendre, c'est un jeu qu'il a créé pour initier les enfants à partir de 6 ans au principe du deck building. Il a retiré tout le gras, tout le superficiel, tout ce qui sert à rien. Il a gardé l'essence même de ce qui fait un deck building. On a une poignée de cartes en main de départ, avec des races, c'est des races fantastiques. Il y a des nains, des elfes, des fées, des princesses, représentés un certain nombre d'exemplaires sur les cartes. On tire 3 cartes et on regarde qui en a le plus. Donc si c'est moi, par exemple, si j'ai 5 nains sur toutes mes cartes et que personne n'atteint le chiffre 5, c'est moi qui en ai le plus. Dans ce cas, il y a une rivière de cartes qui est au milieu de la table, autant de cartes qu'il y a de joueurs, et ce n'est pas le joueur qui a gagné la manche qui va faire la première action, lui il va gagner 2 points. Le joueur suivant, par contre, va pouvoir choisir en premier une carte dans la rivière qu'il met dans sa défausse, et il pourra virer une carte parmi les 3 qu'il a joué à ce tour-ci. Puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Et le joueur qui a gagné la manche, lui prend la dernière carte, mais n'a pas le droit de défausser. On remet les cartes qu'on a gagnées, qu'on a jouées, et les cartes qu'on a gagnées, et ou les cartes qu'on a gagnées, dans l'ordre qu'on veut, en dessous de son paquet, et on retire 3 cartes. Et on regarde, et on recommence. Et par ce principe-là, on va un petit peu améliorer son jeu. On va se débarrasser, par exemple, on va essayer de se débarrasser d'une espèce qu'on avait moins. Bah, si j'avais une seule princesse dans mon jeu, elle me sert pas à grand-chose. Donc je vais essayer de la dégager pour me concentrer, pour avoir plein de nains.
Pauvre princesse.
Des fois, la princesse.
Tu te débarrasses de la princesse.
Non, moi, j'avais les princesses. Moi voilà. J'ai récupéré les princesses.
Moi, j'avais une majorité de nains. Mais on a tous un petit peu de quelque chose dans des proportions différentes au début. Moi, j'avais qu'une seule princesse. Donc, la princesse, à un moment, elle morfle, elle dégage. Je suis désolé. Et ben, comme je l'ai dit à l'auteur, j'ai vraiment ressenti, moi, les sensations que j'avais eues sur ma première partie de Dominion, réduite au plus simple appareil de ce qu'est. Et je l'ai trouvé, j'ai pas 6 ans depuis quelques années, et ben j'ai quand même réussi, les personnes qui étaient autour de la table avec moi le diront, il y avait Cyrus et Peter qui étaient là, ils vous partageront leur avis. Moi personnellement, au niveau du jeu, de ce qu'il avait proposé, j'ai pris du plaisir.
Ouais, c'est un jeu qui... alors déjà, c'est adapté aux enfants. Tu parlais d'une main, mais en fait, ils n'ont même pas les cartes en main. En fait, ils vont juste dépiler les 3 premières cartes de leur paquet. Donc déjà, tu vois, bon, voilà, ça, c'est adapté. C'est un jeu qui ne se moque pas des enfants, parce que il y a vraiment des mécaniques malines, c'est-à-dire que les cartes que tu récupères et celles que tu as... la carte que t'as récupérée au milieu et celle que tu remballes, en gros, tu les mets dans l'ordre que tu veux sous ta pioche. Donc, il faut que tu te rappelles, en gros, que si les dernières cartes que t'as mis, c'était plutôt des elfes, ben, peut-être, il faut que, du coup, je remette mes elfes plutôt au-dessus pour qu'ils arrivent potentiellement en même temps. Il y a quelques petits effets, dans les cartes. Non, franchement, ouais. Il y a même une asymétrie de départ. Je veux dire, attends, dans la plupart des deck building, tu pars avec les mêmes cartes. Là, bon, alors, c'est un peu mécanique aussi. Peut-être qu'on se marche pas trop dessus au début, hein. Mais, ouais, il y a un truc, quand même, quoi. Et, alors, l'auteur, on est arrivé à sa table. Ouais, c'est un démonstrateur. On a compris vite que c'était l'auteur. Et là, il dit, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Hein. Il dit, ouais, tu sais, on n'a pas notre langue dans ta poche, hein, je te préviens. Hein. En filetant que j'ai des pare-balles. Hein. Il dit, non, il n'y a pas de souci, Puis, bah, en fait, au final, on n'a pas eu grand-chose à dire sur la partie mécanique. Mais, il y a des jeux beaux et il y a des jeux pas beaux. Et alors là, je vous assure que, franchement, c'est moche. Ah là là, c'est horrible. Et bah le pauvre, il a pas trop son mot à dire sur ces aspects-là. Mais là, le jeu est vraiment pas servi. Hein. Voilà. Je vois Elodie qui fait oui de la tête. T'as vu les illustrations, tu vois de quoi on parle.
J'ai joué et on nous l'avait présenté à Vichy. Oh. Le pitch, j'étais peut-être fatiguée au moment du pitch parce que les journées pro, enfin le festival pro à Vichy, on enchaîne 50 pitchs les uns après les autres et au bout d'un moment, on sature parce qu'on ne joue pas. Dans les journées pro, on nous pitch des jeux. Et on l'a récupéré à la boutique, on y a joué, entre adultes. Et franchement, ça a marché, même entre adultes. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le fait de, on se moque pas des enfants, ça demande quand même un peu de réflexion sur dans quel ordre on remet nos cartes sous la pile. Et en effet, il est vraiment pas beau. En fait, il manque pas grand chose pour que ça marche. C'est juste qu'on dirait vraiment que les fonds des personnages sont complètement décorrélés des personnages, qu'il n'y a rien qui va. Et ça donne quelque chose de bizarre et de et c'est dommage parce qu'il aurait pu être vraiment absolument charmant ce jeu.
Ouais, c'est même gênant en fait quand tu vois les illustrations.
Hein. Ouais, y a pas
ça fait bugger, ouais.
Il y a pas de cohérence graphique en fait dans l'ensemble et je pense que même les enfants ne le trouveraient pas beau. Je pense que voilà, nous en tant qu'adultes, c'est ce qu'on dit, mais je pense que même pour les enfants, c'est pas comme si c'était un jeu qui était très typé enfant et qui nous marquerait. Hein. Je pense que même pour les enfants, ça serait pareil.
Je te confirme, mais... j'en ai aucun qui s'arrête devant la boutique.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et sinon, ouais, moi, je pense la même chose. Hein. Donc, un jeu qui ne se moque pas des enfants, effectivement, et qui respecte les adultes, parce que on a quand même pris du plaisir, hein, je pense, à en jouer en sentant bien cette montée en puissance hein, au cours de la partie, avec évidemment des cartes qui viennent de la rivière, qui sont de plus en plus, qui permettent de faire monter en puissance son deck de départ, et aussi des jokers finalement qui sont des grenouilles, je crois, hein, dans le jeu. Hein,
c'est pas des dragons.
Non, c'est des caméléons.
Des caméléons. Qui sont verts, mais vu les îles,
c'était des grenouilles.
Vu la qualité des illustrations, voilà, moi j'ai compris que c'était des grenouilles. En tout cas, voilà, ça introduit aussi la notion de joker dans un deck building. Donc il y a pas mal de petites choses dans ce deck building. Ouais.
Ouais. Donc si vous voulez initier votre enfant au deck building, franchement, moi je le recommande. On a pu en voir d'autres, des jeux de deck building. C'était comment le Super Miaou ?
Il y avait Super Miaou, puis là il y a eu aussi le Star Rims Academy. Oui. Qui est sorti exactement en même temps. Il y a eu deux propositions de deck building jeune public. Alors Star Rims Academy, pour moi, il est plutôt 7-8 ans. Okay. Même s'il est noté, je crois. Non, il doit être noté à 7 ans.
Ah oui, pardon, oui, ça y est. Oui, okay.
C'est Star Rims pour les enfants avec pas de texte en fait sur les cartes.
Oui, tout à fait. Et il y avait Qui brûle qui était sorti il y a un paquet d'années, mais les règles étaient en fait dans les règles ils ont oublié d'expliquer le mécanique du deck building. C'est fâcheux. Penchez-vous dessus si ça vous intéresse. Il y a vraiment encore une fois cette idée de monter en puissance qu'on trouve pas dans Super Miaou, mais éventuellement dégager le truc de fin de partie. Il y a un truc de scoring un peu chelou en fin de partie, franchement on peut le dégager. Les enfants à 6 ans, ils captent pas du tout comment il faut monter son deck pour arriver à faire les petits bonus de fin de partie.
Non, clairement non.
Oubliez-le, oui. c'est pas important. Voilà.
Alors, il s'agit d'un jeu qui s'appelle Mon premier deck building, qui porte très bien son nom. C'est un jeu de Fabrice Chazal et d'Alexandre Poyer, illustré par Carrie Onhart, et c'est édité chez Don't Panic Games.
Ouais, Don't Panic Games qui se met au jeu enfant. Pour le coup, c'était pas leur
créneau de base, clairement.
Alors, on a vu sur la boîte, c'était marqué Morning. Et du coup, ça a l'air d'être une marque qu'ils ont peut-être créée pour ça.
Et j'ai l'impression qu'ils veulent mon premier truc, mon premier bidule, et qu'ils ont envie d'avoir une gamme comme ça sur les apprentissages de mécanique pour les enfants. C'est tout bon pour vous ? Eh bien, messieurs, dames, nous avons fini notre troisième journée à Cannes, donc on a encore un petit peu de jus, il nous reste 2 jours à faire, 2 jours à tenir. J'espère que vous serez encore en forme ces 2 jours, moi j'ai retrouvé ma voix, je suis assez contente. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour cette troisième journée ? En forme pour les deux dernières ?
Ouais !
Wouhou ! Allez, c'est parti pour la conclusion, chères auditrices, chers auditeurs, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le billet de l'émission. Partagez ce débrief et si vous êtes à Cannes, venez à notre rencontre sur le stand L5.06. On dirait presque L5 d'M6, hein, si les anciens parmi nous ont la ref. Et si vous avez la chanson maintenant en tête, je ne suis même pas désolée. Vous pouvez également nous aider. Il y a Cyrus qui danse à côté de moi, là. Il est à fond. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x, qu'il soit rouge, noir, vert ou bleu, comme vous voulez. On se retrouve demain pour le débrief du 4e jour de ce fiche 2026. Et d'ici là,
jouez bien !